Charles Dickens, Bleak House. Traduction par Madame H. Leroux, sous la direction de Paul Lorrain. Hachette, 1896. Chapitre 1er. Coup d'œil sur la chancellerie. Londres. La session judiciaire qui commence après la Saint-Michel vient de s'ouvrir, et le Lord Chancelier siège dans la grande salle de Lincoln's Inn. Un affreux temps de novembre, autant de boue dans les rues que si les eaux du déluge venaient seulement d'abandonner la surface de la terre, et l'on ne serait pas surpris de rencontrer un mégalosaurus gravissant dans la vase de la colline de Holborn. La fumée tombe des tuyaux de cheminée, bruine, molle et noire, traversée de petites pelotes de suie qu'on prendrait pour des flocons de neige portant le deuil du soleil. On ne reconnaît plus les chiens sous la boue qui les couvre. Les chevaux, crottés jusqu'aux oreilles, ne sont guère mieux que les chiens. Les parapluies se heurtent et les piétons, d'une humeur massacrante, perdent pied à chaque coin de rue, où des milliers de passants ont trébuché depuis le commencement du jour, si toutefois on peut dire que le jour ait commencé, ajoutant de nouveaux dépôts aux couches successives de cette boue tenace qui s'attache au pavé et s'y accumule à intérêts composés. Partout du brouillard. Sur les marais d'Essex et les hauteurs du Kent, en amont de la Tamise où il s'étend sur les îlots et les prairies, en aval où il se déploie au milieu des navires qui l'enveloppent et se souille au contact des ordures que déposent sur la rive les égouts d'une ville immense et fangeuse. Il s'insinue dans la cambuse des briques, s'enroule aux vergues et plane au-dessus des grands mâts. Il pèse sur le plat-bord des barques. Il est partout, dans la gorge des pensionnaires de Greenwich qui l'oppressent, dans la pipe que le patron irrité fume au fond de sa cabane. Il pince les doigts et les orteils du petit mousse qui grelotte sur le pont. Et les passants qui, du haut des ponts, jetant par-dessus le parapet un regard au ciel bas et sombre, entourés eux-mêmes de cette brume, ont l'air d'être en ballon et suspendus entre les nuages. Le gaz apparaît de loin en loin dans la ville, comme dans les champs imbibés d'eau, le soleil avant le jour laisse apercevoir aux laboureurs ses rayons voilés d'ombre. Il semble reconnaître qu'on l'allume avant l'heure, tant il prête de mauvaise grâce sa lumière aux boutiques. Le temps humide et froid est plus glacial encore, les rues plus boueuses qu'ailleurs, autour de Temple Bar. Et non loin de Temple Bar, au centre même du brouillard, siège à la haute cour de justice le Lord Grand Chancelier. Mais la brume ne sera jamais assez épaisse, la fange assez profonde, pour se mettre au niveau des ténèbres et du bourbier où se débat en tombant la plus pernicieuse d'entre toutes les pécheresses qui ait vieilli dans le mal. Cette cour suprême qui, le jour où nous sommes, tient séance à la face du ciel et de la terre. Certes, si jamais le grand chancelier devait occuper son siège, c'était bien par une journée pareille. Ainsi que nous l'y voyons en effet, la tête sainte d'une auréole blafarde, le corps glorieusement encadré dans des manteaux et des rideaux cramoisis, les yeux fixés au plafond sur une lanterne où il ne voit que le brouillard, tandis qu'un gros avocat lui débite d'une voix grêle un bref interminable. 20 membres du barreau de la haute cour obscurcissent de leur plaidoirie l'une des 10 000 instances d'un procès qui n'a pas de fin. Trébuchant contre les précédents, à tâtons et jusqu'aux genoux dans les termes de palais, et parlant d'équité avec un masque plus sérieux que celui dont jamais acteur ait su couvrir sa face. Les divers procureurs attachés à la cause, héritage que 3 d'entre eux ont reçu de leur père qui s'y était enrichi, sont à leur banc, placés entre celui des avocats et la table rouge du grenier. Procès-verbaux, arrêts contradictoires, répliques, dupliques, défenses, déclarations, mémoires, référés et rapports sont amoncelés devant eux. Que l'ombre envahisse la salle dont les bougies s'usent et s'éteignent. Que le brouillard s'y condense et y reste à jamais. Que les vitraux décolorés n'y laissent pas pénétrer le jour, afin que de la rue, ceux qui passent, jetant leur regard sur les panneaux vitrés de la porte, soient repoussés par cet aspect ténébreux et par le son traînant de cette voix qui s'échappe du dé ouaté, d'où le Lord Chancelier contemple une lanterne qui ne contient pas de lumière. C'est la haute cour, celle qui dans chaque comté a ses murailles en ruine et ses terrains en friche, ses maniaques dans toutes les maisons de fous, ses morts dans chaque cimetière, ses plaideurs ruinés, endettés et mendiants, traînant de porte en porte leurs souliers éculés. Celle qui donne à l'argent le pouvoir d'anéantir le droit à force de le lasser, qui épuise la bourse, la patience, le courage, l'espoir, détruit la raison et brise le cœur, si bien qu'il n'est pas un homme honorable parmi ses praticiens qui ne vous donne ce conseil, supportez tout le tort que l'on pourra vous faire, plutôt que d'entrer ici pour demander justice. Qui, par ce temps humide et sombre, pouvait se trouver à la haute cour, si ce n'est le Lord Grand Chancelier, l'avoué du procès, deux ou trois avocats sans cause, les procureurs déjà nommés, un greffier en robe et en perruque, deux ou trois massiers, huissiers, porte-bourse et porte-queue, enfin tous les comparses indispensables d'un procès en bonne forme. Ils bâillent tous, car il ne peut découler que de l'ennui de l'affaire Jarndyce contre Jarndyce. La cause pendante, pressurée depuis tant d'années qu'on ne peut plus rien en attendre. Les sténographes et les journalistes décampent infariablement avec le reste des habitués quand Jarndyce est appelé. Aussi leur place est-elle vide. Une petite femme est assise dans l'un des bas-côtés, à l'endroit le plus favorable, pour jeter un coup d'œil entre les rideaux du sanctuaire où se renferme le grand chancelier. Vieille et folle, la pauvre créature ne manque pas une audience, arrive au commencement, ne part qu'après la fin, attendant toujours qu'un jugement quelconque soit rendu en sa faveur. On suppose qu'elle a vraiment quelques procès, mais nul ne pourrait l'affirmer et personne ne s'en inquiète. Elle porte dans un sac un fouillis de rien sans nom qu'elle appelle ses documents, et qui est surtout composé d'allumettes de papier et de lavande desséchée. Un prisonnier, maigre et blême, est dans un coin entre ces deux geôliers. Il vient pour la sixième fois demander à purger sa contumace. Exécuteur testamentaire mêlé à des comptes dont on ne prétend même pas qu'il ait eu connaissance, néanmoins condamné pour la forme, il sollicite la révision de ce jugement qui le flétrit et l'enchaîne. Mais cette fois encore, il ne l'obtiendra pas. Et tandis qu'il réclame, son avenir s'est brisé. Plus près de la barre, c'est un malheureux qui vient périodiquement du Shropshire et qui s'épuise en vains efforts pour trouver, à la fin de chaque audience, le moyen d'adresser un mot au juge. Un pauvre homme qui ne veut pas comprendre que, légalement parlant, son existence est complètement ignorée du Lord Chancelier, qui le voit et le désespère depuis plus de 25 ans. Il choisit une place où il puisse être remarqué, s'y cramponne, et les yeux attachés sur le juge, se prépare à l'interpeller dès qu'il se lèvera de son siège. Ce que voyant, les jeunes clercs d'avoué s'arrêtent, comme ils allaient partir, dans l'espoir qu'il en résultera quelque plaisante affaire, tout au moins un bon mot qui égayera tant soit peu cette journée morne et sombre. L'affaire Jarndyce continue à occuper l'audience. Par la suite des temps, ce procès effroyable s'est tellement compliqué que nul au monde n'en connaît plus le motif, les parties moins que personne. Et parmi tous les membres du barreau, on n'en trouverait pas deux qui puissent en parler 5 minutes sans tomber en contradiction avec eux-mêmes. Des myriades d'enfants sont nés depuis le jour où ce procès commença. Ils ont grandi, se sont mariés et sont morts. On compte par vingtaines ceux qui, sans savoir ni comment ni pourquoi, se sont trouvés, de naissance, partie intéressée dans Jarndyce contre Jarndyce. Des familles tout entières ont hérité de ce procès et des haines traditionnelles qu'il engendra. Le petit défendeur auquel on promit jadis un cheval de bois quand la cause serait gagnée a possédé de vrais chevaux et est allé dans l'autre monde toujours trottant avant que l'époque du jugement ait paru plus prochaine. Les pupilles de la cour sont devenues mères et grand-mères. Une longue procession de chanceliers a défilé et s'est éteinte. Peut-être n'y a-t-il plus que 3 Jarndyce sur la terre depuis que le vieux Tom s'est, dans son désespoir, fait sauter la cervelle au café de Chancery Lane. Mais le procès dure toujours et se traîne à perpétuité devant son juge impassible. Jarndyce contre Jarndyce a passé en proverbe. On en plaisante, on en rit, et c'est là tout le bien qu'il ait jamais su faire. Pas de magistrat qui n'ait à ce sujet quelque épigramme à recevoir. Pas de chancelier qui n'y ait été intéressé comme avocat plaidant quand il était à la barre. De vieux légistes aux souliers bulbeux, au nez violet, en ont-tu des saillies après boire? Et les stagiaires s'en servent comme de cible pour exercer leur esprit au sarcasme légal. Le dernier Lord Chancelier nous en fournit l'exemple. « Telle chose n'arrivera, disait M. Blowers, l'avocat éminent, qu'à l'époque où il pleuvra des pommes de terre. » Ou quand nous sortirons de l'affaire Jarndyce contre Jarndyce, reprit le chancelier, dont l'aimable plaisanterie flatta surtout les massiers, les huissiers et les juges. Et que de gens en dehors de ceux qu'il a ruinés, l'influence malsaine de ce procès n'a-t-elle pas corrompu? Depuis le président, qui a devant lui cette montagne jaune de dossiers poudreux, ridés et recroquevillés, jusqu'au petit clerc dont la main a expédié ses 10 000 rôles sous la rubrique Jarndyce contre Jarndyce. Qu'est-ce que leur nature y a gagné? Que peut-il ressortir des moyens échappatoires, de la ruse, de la spoliation, du mensonge, de l'insulte et de la haine, sous toutes les formes et sous tous les prétextes? Le saute-ruisseau, qui a trompé 100 fois l'infortuné plaideur en affirmant que maître Chizzle ou Mizzle était sorti et ne rentrerait pas de la journée, a fini par contracter dans l'affaire Jarndyce des habitudes de mensonge dont sa franchise ne se relèvera jamais. Le receveur, qui s'est enrichi en percevant les revenus des domaines en litige, y a perdu la confiance de sa mère, et dans son propre cœur l'estime qu'autrefois il avait pour les hommes. Chizzle et Mizzle ont pris l'habitude de renvoyer l'examen de telle affaire où le bon droit est, suivant eux, odieusement outragé, après que Jarndyce contre Jarndyce leur en laissera le loisir. Toutes les variétés de l'escroquerie ont été semées à profusion par cet infernal procès. Et ces méfaits en viennent peu à peu à laisser le mal suivre son cours et s'endorment sur cette pensée que si le monde va de travers, c'est qu'il est fait pour cela et n'ira jamais droit. Ainsi donc, au centre de la fange, au cœur même du brouillard, siège le Lord Grand Chancelier à la haute cour de justice. « Maître Tangle, dit-il, fatigué depuis un instant de l'éloquence déployée par ce savant juriste. Maître Tangle est de tous ses contemporains celui qui en sait le plus sur Jarndyce contre Jarndyce. On pense qu'il n'a pas lu autre chose depuis qu'il est sorti de l'école. « Milord, répond le célèbre avocat, êtes-vous prêt de conclure, Maître Tangle ?»« Non, Milord, non. Divers points sont encore à éclaircir. Toutefois, je le sais, mon devoir est de me soumettre à votre seigneurie. » Il nous reste à entendre encore plusieurs membres du barreau, je le crois du moins, reprend Milord en souriant légèrement. 18 collègues de Maître Tangle, porteurs chacun d'un résumé sommaire de 1800 feuillets, se lèvent comme poussés par un ressort, font ensemble leurs 18 saluts et se replongent immédiatement dans leur obscurité. La cause est renvoyée à quinzaine, dit en se levant le grand chancelier. Milord, s'écrie d'une voix suppliante le pauvre homme du Shropshire, auquel massiers, huissiers et têtes à perruques imposent silence avec indignation. Relativement à la jeune fille, continue le grand chancelier, toujours à propos de l'affaire Jarndyce. Au jeune garçon, interrompt Maître Tangle. Relativement à la jeune fille, reprend Milord en appuyant sur chaque syllabe. Et au jeune homme que j'ai invité à paraître devant moi aujourd'hui, et qui doivent m'attendre dans mon cabinet, je vais, dès que je les aurai vus, expédier l'ordre qui établit leur domicile chez leur oncle. Je demande excuse à votre seigneurie, l'oncle est mort. En ce cas, chez leur, continue le chancelier en jetant à travers ses doubles lunettes un coup d'œil sur les papiers qui sont placés devant lui, chez leur grand-père. Demande excuse à votre seigneurie, le grand-père s'est suicidé. Que votre seigneurie veuille bien me permettre, dit en se levant tout à coup un avoué, petit et grêle, dont la voix de basse-taille éclate comme le tonnerre. Je parais au nom de mon client, cousin des 2 pupilles. Je ne saurais informer la cour en ce moment du degré exact de parenté qui l'unit aux jeunes gens, je n'y suis point préparé, mais il est leur cousin. L'écho de ces paroles prononcées d'un ton sépulcral va se perdre dans la charpente qui soutient la toiture. Le très petit avoué reprend sa place où le brouillard le cache à tous les yeux. « Je vais questionner les 2 jeunes gens, répond encore le chancelier. Je verrai ce que je dois faire relativement à leur résidence chez le cousin dont il est fait mention. Et je rendrai compte à la cour de ce que j'aurai décidé demain matin à la reprise de l'audience. » Au moment où Milord va rendre son salut au barreau qui s'incline, on lui présente le malheureux prisonnier. Que peut-il en résulter pour le pauvre contumace, si ce n'est de retourner en prison, ce qui est fait immédiatement ? Milord, s'écrie de nouveau le malheureux homme du Shropshire. Mais le grand chancelier, qui vient de l'apercevoir, s'est adroitement éclipsé. Chacun disparaît à son tour. Sacs bleus et monceaux de liasses de toutes nuances sont emportés par l'éclair. La petite femme, vieille et folle, quitte la salle avec ses documents. La cour est vide, on en ferme la porte. Que ne peut-on y enfermer en même temps les injustices qu'on y a commises, les ruines, les misères qui en résultent, et, approchant la flamme de ce bûcher monstrueux, anéantir toutes ses douleurs et ses iniquités. Chapitre 2. Coup d'œil sur le grand monde. Vers la fin de ce jour froid et brumeux, il est nécessaire que nous jetions un coup d'œil sur le monde fashionable. Il a d'ailleurs assez de ressemblances avec la haute cour pour que nous puissions passer à vol d'oiseau d'une scène à l'autre. Comme la chancellerie, la mode n'a de principe que l'usage et les antécédents. Monde étroit, même relativement à celui où nous sommes, peuplé, comme la haute cour, de Rip Van Winkles, dont l'orage n'interrompt pas le sommeil, et de belles au bois dormant qui s'éveilleront à l'heure où les broches, arrêtées lorsqu'ils fermèrent leurs yeux, tourneront avec une vitesse prodigieuse. Point imperceptible sur la terre, où il occupe une place déterminée, il renferme beaucoup de biens dans son étroite enceinte, et les natures loyales et généreuses ne sont pas rares parmi ceux qui l'habitent. Malheureusement, il est, comme les joyaux précieux, trop enveloppé de coton pour entendre le bruit qui s'élève des autres sphères, et ne se doute pas de la révolution qu'elles accomplissent autour du soleil. C'est comme un monde amorti qui étouffe et s'étiole, faute d'air. Mais Lady Dedlock est de retour à Londres. Elle y restera quelques jours, en attendant qu'elle parte pour Paris, où elle a l'intention de passer quelques semaines. Après quoi, ses projets sont incertains. C'est du moins ce que l'on trouve dans le courrier du grand monde, fort au courant des allées et venues de la mode. Quant à savoir les nouvelles d'autre part, ce serait peu fashionable. Mais Lady Dedlock a énormément souffert dans son trou, ainsi qu'elle appelle entre intimes, son domaine du Lincolnshire. Tout le comté est submergé. Une arche du pont qui est dans le parc a été emportée par les eaux. La prairie est un lac dont les arbres font des îles et dont la surface est criblée tout le long du jour par une pluie incessante. Milady s'est mortellement ennuyée. Il a plu si longtemps que les branches, véritables éponges, ne craquent pas même en tombant sous la cognée qui les frappe. Les dents trempées ne franchissent plus qu'un marais. Le coup de fusil perd son retentissement dans un air trop humide et sa fumée se dirige lentement vers la colline rayée de pluie. Le ciel passe alternativement de la couleur du plomb à celle de l'encre de Chine. L'eau remplit tous les vases de la terrasse et tombe sur les larges dalles, appelées de temps immémorial le promenoir du revenant, avec un drip-drip continuel que ne supportaient pas les nerfs de Milady Dedlock. Le dimanche, la petite chapelle du parc est moisie. La chaire et les bancs sont inondés de sueur froide, et l'on y sent une vague odeur et comme un arrière-goût des anciens baronnets dont les tombeaux s'y trouvent. Le soir, à l'heure du crépuscule, Milady, qui n'a pas d'enfant, a regardé de son boudoir la loge du garde qui est au bout de l'avenue. La lueur du feu sur les vitres, la fumée qui s'élevait de cette maisonnette, un bambin poursuivi par une femme et courant sous la pluie à la rencontre d'un homme jeune et vigoureux qui, enveloppé d'un manteau, se dirigeait vers la grille, ont tellement exaspéré Milady qu'elle a perdu patience. Elle serait morte d'ennui, et c'est pourquoi elle est partie, abandonnant son trou à la pluie, aux corneilles, aux lapins, aux perdrix, aux daims et aux faisans. Les portraits de tous les anciens Dedlock se sont évanouis dans l'ombre où les a plongés la femme de charge en fermant les volets. Quand reparaîtront-ils au jour? Les nouvellistes à la mode, qui dans leur omniscience ne connaissent que le passé, et pour qui l'avenir est lettre close, ne l'ont pas fait savoir. Sir Leicester Dedlock est seulement baronnet, mais de tous les baronnets le plus puissant et le plus noble. Sa famille, aussi vieille que les collines, est infiniment plus respectable. Le monde, suivant lui, pourrait marcher sans montagne, mais non pas sans deadlock. Il admet que la nature soit une heureuse idée, toutefois un peu vulgaire car elle n'est pas comprise dans l'enclôture du parc, mais une idée dont la réalisation dépend essentiellement des grandes familles d'Angleterre. Gentilhomme intègre, il dédaigne toute bassesse, méprise toute lâcheté et sera toujours prêt au moindre signe à mourir de quelque mort que vous lui imposiez, plutôt que de laisser soupçonner sa loyauté. Homme d'honneur, en un mot, fidèle, courageux, opiniâtre dans ses préjugés et parfaitement déraisonnable. Il a 20 ans de plus que Milady, bonne mesure. Jamais il ne reverra le chiffre 65, ni peut-être même les deux suivants. De temps à autre, il est pris d'un accès de goutte et sa démarche en a contracté quelques roideurs. Mais il est d'un grand air, noble et digne avec ses cheveux et ses favoris grisonnants, son fin jabot, son gilet d'un blanc pur et son habit bleu à boutons d'or, toujours boutonné. Plein de déférence à l'égard de Milady, profondément respectueux, cérémonieux même envers elle et en toutes circonstances, il professe la plus haute admiration pour sa dame. Et la galanterie dont il a fait preuve à son égard, et qui ne s'est pas démentie depuis l'époque où il la recherchait en mariage, est le seul trait romanesque de son caractère. Il l'épousa par amour. On dit bas qu'elle n'avait pas même de naissance. Mais Sir Leicester était d'origine trop illustre pour avoir besoin d'ajouter au nombre de ses ancêtres. D'ailleurs, elle possédait en échange assez de beauté, d'orgueil, d'esprit impérieux, d'insolence, de promptitude et de fermeté dans ses résolutions pour doter une légion de nobles dames. Un titre et une immense fortune joints à ses qualités brillantes l'eurent bientôt placé au premier rang, et Milady Dedlock est au sommet du grand monde et le centre des nouvelles fashionables. On sait, ou du moins on doit savoir, combien Alexandre pleura quand il n'eut plus de monde à conquérir. Milady Dedlock, ayant conquis son monde, ne fondit pas en larmes comme le héros macédonien, elle se congela. Une placidité d'épuisement, une sérénité de fatigue, un calme de glace, que ne parviennent à troubler ni l'intérêt ni la joie, sont les trophées de sa victoire. C'est une personne parfaitement bien élevée. Si demain elle était transportée au séjour des élus, elle monterait au ciel sans laisser apercevoir le moindre ravissement. Elle est toujours belle. Peut-être a-t-elle passé les premiers jours de l'été, mais assurément elle est loin encore de l'automne. Son charmant visage, plus séduisant que régulier dans l'origine, est devenu d'une beauté classique par l'expression acquise dans la haute position qu'elle occupe. Sa taille élégante paraît plus élevée qu'elle ne l'est en effet, ce que l'honorable Bob Stables explique en attestant sous la foi du serment que cela tient à l'aisance et à la noblesse de ses allures. Il a fait observer en même temps, à propos du soin avec lequel ses cheveux sont arrangés, qu'il n'y a pas dans tout le stade de femme aussi bien pensée qu'elle. Munie de ses perfections, Milady Dedlock a donc quitté son trou pour venir à Londres, en attendant son départ pour Paris. Et vers le soir de cette journée de brouillard que nous avons passée à la haute cour, se présente à son hôtel un vieux gentleman, procureur et avoué à la chancellerie, qui a l'honneur d'agir en qualité de conseiller légal des Dedlock et possède en son étude maintes et maintes boîtes de fonte portant ce noble nom, qui ressort partout chez lui comme la muscade présentée au public par l'escamoteur après chacun de ses tours. Il entre dans le vestibule, monte l'escalier, traverse les salons et les galeries splendides, lieu féerique à visiter, véritable désert pour celui qui l'habite, et, précédé par un mercure à cheveux poudrés, le vieux gentleman est introduit en présence de Milady. Il est vêtu à l'ancienne mode, et son aspect n'a rien qui puisse flatter le regard. Toutefois, les contrats de mariage et les testaments de sa noble clientèle ont augmenté son épargne, et il passe pour très riche. Il est environné d'une mystérieuse auréole que forment autour de lui les confidences dont on le sait dépositaire. Et les antiques mausolées gisant depuis des siècles au fond des grands parcs, sous la fougère et les ronces, contiennent moins de nobles secrets qu'il ne s'en promène au grand jour scellé dans la poitrine de M. Tulkinghorn. Il est ce qu'on appelle de la vieille école, expression qui s'applique généralement à ce qui n'a jamais été jeune. Il porte des culottes courtes rattachées à la jarretière avec un nœud de ruban, et suivant la saison, il a des guêtres ou simplement des bas. Le caractère particulier de ses bas et de son habit, toujours noir, c'est qu'ils ne reluisent jamais, quelle qu'en soit la matière. De soie ou de laine, tous ses vêtements sont muets comme celui qui les porte, et ne répondent pas même à la lumière qui les frappe. M. Tulkinghorn ne parle jamais, à moins qu'on ne le consulte pour affaire. On le voit souvent, silencieux mais parfaitement à l'aise, au bas bout de la table, dans les nobles dîners des plus nobles châteaux, ou bien encore près de la porte du salon, où, d'après ce que rapporte le courrier du grand monde, la moitié de la pairie s'arrête pour lui dire « Comment vous portez-vous, Monsieur Tulkinghorn ?» Il reçoit ces paroles avec une gravité imperturbable et les renferme en lui-même, où elles vont rejoindre les confidences qui lui ont été faites. Sir Leicester Dedlock est auprès de Milady et paraît toujours heureux de voir Monsieur Tulkinghorn. Il y a dans toute la personne de ce dernier un air de subordination particulièrement agréable au baronnet, qui le regarde comme une sorte d'hommage. Il aime le costume du procureur, où il retrouve quelque chose du respect qui lui est dû, costume profondément estimable, et dont l'ensemble rappelle le serviteur, l'intendant des mystères légaux, le sommelier de la cave judiciaire des Dedlock. Monsieur Tulkinghorn, s'en doute-t-il ? Personne ne pourrait le dire. Mais notons en passant une circonstance remarquable qui s'applique non seulement à Milady, mais encore à tous ceux qu'elle représente. Milady est persuadée qu'elle est un être impénétrable, complètement en dehors de la portée du regard des mortels ordinaires. Elle le croit d'autant mieux qu'elle jette les yeux sur sa glace, où elle a parfaitement l'air d'être au-dessus de n'importe quelle atteinte. Et cependant, tous les infimes satellites dont elle est le soleil, et qui se meuvent autour d'elle, depuis sa femme de chambre jusqu'au directeur des Italiens, connaissent ses préjugés, ses folies, ses fiertés, ses caprices, et règlent toutes leurs actions d'après la mesure qu'ils ont prise de son moral avec autant d'exactitude que sa couturière l'a fait pour son corps. Y a-t-il un vêtement, une étoffe, une mode quelconque, un chanteur, un danseur, une forme de bijou, un nain ou un géant, une chapelle, n'importe quoi dont on veuille faire le succès? Il se trouve dans chaque profession des gens soumis et respectueux, chez qui Milady ne soupçonne pas autre chose qu'un profond servilisme, et qui la gouverne toute leur vie, qui affecte de la suivre humblement, et qui la mène, et qui, l'ayant prise à l'hameçon, entraîne avec elle toute sa bande, comme fit Gulliver de la flotte de Lilliput. Si vous avez besoin de vous adresser à notre monde, disent les bijoutiers Blaze et Sparkle, désignant ainsi Lady Dedlock et le reste, rappelez-vous que ce n'est plus au public que vous avez affaire. Prenez nos gens par leur faible, et c'est à telle place qu'est leur endroit sensible. Le meilleur moyen d'assurer la vogue de cet article, messieurs, disent les marchands de nouveautés, Chine et Gloss, à leurs amis les manufacturiers, c'est de nous le confier. Nous savons la manière de s'y prendre avec la haute fashion. Nous l'y ferons mordre, et le succès est certain. Désirez-vous que cette gravure soit bientôt sur toutes les tables de mes nobles pratiques? Dit M. Sladdery, le libraire. Avez-vous envie que votre nain ou votre géant paraisse dans le salon de mes hautes connaissances? Ou bien encore souhaitez-vous le patronage de mes relations distinguées pour ce bal ou ce concert? Je m'en charge, monsieur. J'ai depuis longtemps étudié ma noble clientèle. Je connais les meneurs et je puis dire sans vanité que je les fais aller du bout du doigt et tourner comme un toton. Assertion qui, de la part de M. Sladdery, n'est nullement exagérée. C'est pourquoi M. Tulkinghorn peut fort bien savoir ce qui se passe dans l'esprit des Dedlock. Aurait-on appelé la cause de Milady, M. Tulkinghorn? Dit Sir Leicester en tendant la main au gentleman. Aujourd'hui même, répond l'avoué en adressant un salut discret à Milady, qui est assise auprès du feu et qui tient un riche écran. Il est inutile de demander si on a fait quelque chose, ajoute Milady, toujours profondément ennuyée. Rien, effectivement, de ce que vous voulez dire n'a été fait aujourd'hui, réplique le procureur. Ou ne se fera jamais, dit encore Milady. La lenteur d'un interminable procès devant la Cour suprême n'a rien qui déplaise au baronnet, dès que c'est une chose grave, dispendieuse, éminemment anglaise et se rattachant au fondement de la Constitution même. La seule impression désagréable qu'ils reçoivent de celui dont il s'agit, où d'ailleurs Milady seule est en cause, est relativement à l'étiquette. Il est vraiment ridicule de voir le nom de Dedlock engagé dans une affaire quelconque sans figurer au titre. Mais il regarde l'institution de la chancellerie, alors même qu'à l'occasion elle entraverait un peu le cours de la justice et y apporterait quelques légères confusions, comme faisant partie essentielle d'une combinaison imaginée par la sagesse humaine, dans ce qu'elle a de plus excellent, pour régler à jamais tout ce qui se fait ici-bas. Et l'opinion bien arrêtée de Sir Leicester est que sanctionné, même par l'expression de sa physionomie, une plainte quelle qu'elle soit, contre ce monument si parfait de la raison humaine, serait encourager certaines gens de la basse classe à s'agiter quelque part, ainsi que l'a fait jadis ce factieux de Wat Tyler. Comme certains affidavits ont été joints au dossier, continue M. Tulkinghorn, que la teneur en est courte, et que j'ai pour principe, fatigant j'en conviens, mais immuable, de ne rien laisser ignorer à mes clients des incidents de la cause où ils sont engagés, sachant en outre que vous êtes sur le point de partir pour Paris, je me suis empressé d'apporter ces affidavits afin de vous les soumettre. Sir Leicester est aussi du voyage, mais le courrier du grand monde ne parle que de Milady. Monsieur Tulkinghorn demande la permission de poser les sudits papiers sur le tapis brodé d'or d'une petite table qui se trouve précisément à côté de Milady, met ses lunettes et commence la lecture suivante. En chancellerie, entre John Jarndyce, Milady l'interrompt pour le prier d'abréger autant que possible et de passer toutes ses horreurs de phrases. Monsieur Tulkinghorn lance un coup d'œil par-dessus ses lunettes et reprend sa lecture un peu plus loin. Milady s'absorbe complètement en elle-même. Son air est à la fois insouciant et dédaigneux. Le baronnet est dans un grand fauteuil. Il regarde les tisons et paraît avoir un goût sérieux et noble pour les répétitions et prolixités judiciaires, comme faisant partie de cet ensemble d'institutions heureuses qui sauvegardent la vieille Angleterre. Le feu est des plus vifs. De sa place, Milady en ressent trop la chaleur, et l'écran qu'elle tient à la main est moins utile que magnifique. Elle se détourne, aperçoit les papiers qui sont sur la petite table, les regarde de plus près encore, et demande, comme poussée par un mouvement involontaire, « Qui a écrit cela ?» M. Tulkinghorn s'arrête, frappé du son de voix de Milady. « Est-ce là ce que vous appelez une écriture juridique ?» reprend-elle avec son indifférence habituelle et en regardant fixement le procureur, tandis qu'elle joue avec leur riche écran. M. Tulkinghorn examine le papier que lui désigne sa seigneurie. « Non, répond-il, c'est une simple copie dont le caractère légal dérive de certaines formalités tout à fait en dehors de la manière dont elle se trouve écrite. Pourquoi demandez-vous cela ?»« Pour rien du tout. » Si ce n'est pour sortir un peu de cette lecture monotone, continuez, je vous prie. Monsieur Tulkinghorn obéit. La chaleur augmente et Milady se cache le visage derrière l'écran qu'elle tient. Tout à coup, Sir Leicester, qui commençait à sommeiller, se redresse vivement. « Qu'est-ce qu'il y a ? » s'écrie-t-il. « Je crains que Milady ne se trouve mal, » répond Monsieur Tulkinghorn en se levant. « Ce n'est qu'une faiblesse, » murmure Milady de ses lèvres pâles. « Ce n'est rien, mais je me sens faible à mourir. Ne me parlez pas. Sonnez, Sir Leicester, et reconduisez-moi dans mon appartement. » M. Tulkinghorn se retire dans une pièce voisine. Les sonnettes s'agitent, le bruit des pas se fait entendre, tout redevient silencieux. Mercure paraît et prie l'avoué de rentrer dans le salon. « Mieux maintenant, » répond Sir Leicester à la question du gentleman, en l'invitant à s'asseoir et à reprendre sa lecture. J'ai été fort effrayé. Jamais jusqu'à présent je n'ai vu Milady s'évanouir. Mais ce temps est si affreux, et elle s'est tellement ennuyée dans son château du Lincolnshire.